France Inter, Interclasse.
Tout ce que vous lisez et tout ce que vous pouvez entendre, c'est pas la vérité. C'est pire. Il n'y a pas de mots qui peuvent désigner ce que les nazis ont fait endurer aux juifs. C'est pour ça, attention, attention mes enfants. Dès que vous dites « Oh, c'est un musulman, oh, c'est un noir », attention, c'est un pied dans Auschwitz.
France Inter, Interclasse, lycée René Auffray à Clichy-la-Garenne.
Clichy, aux portes de Paris, pile entre le périph' et la Seine, 3 km carrés, compact, dense, et pourtant je retrouve Marion et quelques amis au parc des impressionnistes, dans une cabane, au milieu des arbres.
Ça nous permet de respirer un peu, en quelque sorte. On est toujours en ville, mais de s'éloigner un peu de la ville.
Mais on n'est jamais bien loin de la ville, avec les rails de train juste derrière, le bruit des travaux et des voitures au loin. Mais cette cabane en bois permet d'être à l'abri des regards. C'est le lieu où les 3 élèves du lycée René Auffray se retrouvent toujours, depuis l'époque du collège, confie Marion.
En fait, ici, il y a beaucoup de commérages, etc. En fait, Clichy, c'est une ville qui est assez petite. C'est-à-dire que, qu'on soit dans le même collège ou pas, en fait, ici, tout se sait.
Exactement.
Et ici, bah, justement, on vient pour discuter de certaines choses qui se passent, pour, entre guillemets, parler sur les autres, des choses comme ça.
Mais la lycéenne a grandi. Elle délaisse petit à petit le parc pour le terrain de basket près de la gare.
En général, il y a tous nos amis. Ouais. Là-bas, on s'amuse bien, on rigole bien, etc.
Alors, on abandonne la cabane en bois, direction le terrain. On passe devant son ancienne école maternelle, primaire, devant la boulangerie où elle achetait des cookies. Et au bout de 10 minutes...
Ouais, mais non, mais là, devenez comme ça.
C'est aussi ça, un Clichy, pouvoir aller partout, à pied ou en quelques minutes de bus. Sur le terrain et aux alentours, beaucoup plus de garçons que de filles, dont Ryan, 18 ans.
Beaucoup de personnes viennent ici pour pouvoir jouer au basketball et pour pouvoir s'amuser. Hein.
Pour le jeune homme, la taille de Clichy, la proximité est l'une des caractéristiques principales de la ville.
Presque tout est à côté de chez moi. Quand j'ai envie d'aller quelque part, je peux directement m'y rendre. C'est petit, donc c'est comme un village en fait.
Clichy, un village ?
Tout le monde se connaît, oui.
Un petit village de plus de 60 000 habitants, hein, tout de même. Direction maintenant le centre-ville, avec ses fast-food, ses restaurants, ses bars, ses magasins. J'y croise Mathilda, 14 ans.
Je trouve qu'il y a beaucoup de stéréotypes, mais c'est pas si nul que ça, Clichy. Enfin, il y a vraiment des trucs qui sont plutôt sympas, je trouve qu'il y a une meilleure ambiance.
Tu parlais de stéréotypes, c'est quoi les stéréotypes de Clichy ?
Bah, par exemple, quand on va à Levallois, beaucoup de gens nous disent qu'ici, c'est la cité, entre guillemets, où ça craint, etc. Mais en fait, pas tant que ça, enfin, pas plus qu'à d'autres villes particulièrement.
La jeune fille sait de quoi elle parle. Elle habite Clichy depuis toujours, mais va au collège à Levallois. Deux communes voisines et pourtant si différentes.
Je préfère être à Clichy qu'à Levallois, que ce soit pour s'amuser, etc., sortir, je trouve ça... Je préfère. On sent qu'on est plus à son espace. J'ose plus m'habiller comme je veux, par exemple à Clichy qu'à Levallois, où je vais plus faire attention à comment je suis, à comment je me comporte. Parfois on a l'impression de déranger les gens, etc., alors que dans la rue Clichy, je trouve que c'est beaucoup plus agréable de se déplacer, de marcher, de faire des choses.
Clichy, à taille humaine, c'est peut-être pour ça que Marie-Noël, lycéenne de 15 ans, étouffe un peu.
On a besoin de changement, enfin, parce que Clichy, c'est bon, on connaît tous les recoins. C'est fatigant au bout d'un moment.
Il n'est pas encore temps pour Marie-Noël de quitter Clichy, puisqu'elle entre en classe de première au lycée René Auffray en septembre prochain.
Y a plus de respect dans la rue, tu sais très bien quand t'abuses, balance ton quoi.
Au lycée René Auffray, à Clichy, avec Salimata, Nelly, Selma et Célia, tout à l'heure, on discutait pour préparer l'émission, et il y a un sujet qui avait l'air de vous intéresser au plus haut point, c'est celui des tenues que vous pouviez ou ne pouviez pas, peut-être, porter au quotidien, au lycée ou même dans la rue.
On parlait des tenues qu'une fille, une adolescente, peut ou ne pas porter à cause de la peur de critique ou de la peur de ce qui peut lui arriver par rapport à une tenue. Ici, nous, les filles autour de cette table, on a presque tous les jours la question « Est-ce que je mets ça ou pas ?» Parce que si je mets ça, est-ce qu'il va m'arriver ça ou ça ? Et si on doit se priver de s'habiller parce que justement on a peur qu'il nous arrive quelque chose ou on a peur d'insultes, bah, c'est un peu se priver de vivre.
Vous quatre, c'est vraiment des questions que vous vous posez le matin avant de partir, enfin quand vous vous levez, dire qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je mets pas ?
C'est une question que je me pose la veille, mais personne en fait a le droit de juger ma façon de m'habiller parce que c'est ma personnalité, surtout des garçons, Parce que les garçons, quand ils mettent des joggings, des survêtements, personne ne dit rien. Mais par exemple, quand une fille met un jogging, bah, ah, ça fait trop garçon. Quand elle met une jupe, oh, bah, du coup, c'est un peu trop sexy. Quand tu mets un léger petit décolleté, oh, bah, non, t'as pas le droit. Ça fait trop ci, ça fait trop ça. Bah, tu veux que je porte quoi? Une combinaison de ski? Bah, non, en fait, moi, je suis pas d'accord.
Il y a des vêtements qui sont interdits, de fait?
Au lycée, je sais que, par exemple, les jeans à trous, c'est interdit. Chose que personnellement je comprends pas parce que c'est des trous. Si une jupe elle est autorisée, pourquoi un jean à trous il est pas autorisé?
Il y a un règlement qui l'interdit?
Oui. Enfin, on rentre pas si on n'a pas. Enfin, moi je suis venue avec des trous, on m'a dit tu rentres chez toi. Donc bon. Après, je peux comprendre qu'un jean à trous ce soit pas forcément une tenue pro entre guillemets. C'est sûr que si je vais à un entretien demain, je vais pas y aller avec un jean à trous. Mais je veux dire que justement, c'est pour moi ça passe par là, par l'école, vu qu'on côtoie plein de gens de plein d'origines. L'école, elle a permis justement l'école publique, on va dire, elle a permis aux jeunes de s'habituer entre guillemets à d'autres gens, à d'autres origines, à d'autres religions, à d'autres milieux sociaux. Donc les tenues, pour moi, c'est important aussi parce que du coup, à force de voir différents styles, plus tard quand ils vont sortir, ils vont dire bah non, ça c'est pas choquant parce qu'il y en a plein des gens comme elle. Sauf que si on nous demande de nous habiller tous pareil, non, t'as interdiction à ça, interdiction à ça. Bah, quand les gens ils vont sortir et qu'ils vont voir des gens libres, ils vont dire « mais c'est bizarre sa tenue, pourquoi elle habillée comme ça? C'est pas normal. » Donc en fait, c'est important. Et après, dans la rue, bah, en fait, ça dépend des lieux. Si je sais que dans ce lieu-là, j'ai entendu des chuchotements à droite à gauche sur une tenue que j'ai pu porter, c'est sûr que je vais pas aller la reporter. Enfin, des fois, il y a ce truc de résistance où on se dit « c'est pas grave, on va continuer, comme ça ils vont comprendre », sauf que des fois aussi, il ne faut pas oublier qu'on est des filles, qu'on a peur. Enfin, des fois, à la mettre, la tenue, si c'est pour après, nous arrive un truc grave, enfin, voilà quoi. Enfin, en fait, je n'ai pas préparé ma tenue en fonction que de la météo, alors que normalement, c'est quelque chose que je devrais faire. Je vais préparer ma tenue en fonction de la météo, de est-ce que je dois faire quelque chose où je dois être à l'aise ou pas. Et ensuite, bah, attends, si je mets ça, est-ce qu'il y aura lui qui va venir me parler, ou est-ce qu'il y aura ci, ou est-ce qu'il y aura tout ça comme dégâts après qui vont être causés à cause d'une tenue ou à cause... d'un maquillage ou à cause d'une coiffure ou à cause de je ne sais quoi. Donc c'est quand même un sujet qui est important.
갈 수가 있었어. 사랑이 사람만으로 완벽하기에 내 모든 약점들은 다 숨겨지기에 이루어지지 않는 꿈속에서 피울 수 없는 꽃을 키웠어.
De nouveau dans la cour du lycée René Auffray à Clichy. Et là, on va parler d'un reportage sur les influenceurs. Avec vous, les filles, si vous pouvez vous présenter.
Bonjour, je m'appelle Marion, j'ai 15 ans.
Bonjour, je m'appelle Marie-Noël et j'ai 15 ans.
Bonjour, je m'appelle Elsa, j'ai 15 ans.
Pourquoi est-ce que vous avez voulu traiter ce sujet des influenceurs ?
Parce que c'est quelque chose qui nous concerne, les réseaux sociaux.
On passe au moins plus d'une heure sur les réseaux sociaux par jour.
On a voulu voir les dessous des réseaux sociaux.
Maintenant, on va écouter ce reportage et puis après, vous allez nous donner un petit peu votre réaction par rapport au travail que vous avez mené.
Ok, donc là, je viens de finir mon shooting. J'ai une réunion pour mes op à venir, genre mes vidéos, etc. Et là, on chill.
À L2, Constance et Louise cumulent 473 000 abonnés sur Instagram. Chacune de leurs photos ou vidéos est vue par des centaines de milliers d'internautes. Toutes deux en fin d'études, elles ont d'ores et déjà décidé de faire de leur activité sur les réseaux sociaux leur métier.
Tu te confrontes au regard des autres tout le temps. Et du coup, bah, t'es obligée de te remettre en question, t'es obligée de te prendre des réflexions, des gens que tu connais, des gens que tu connais pas. Les influenceurs sont tous un peu mis dans la même case aussi. Du coup, j'ai pas mal de réflexions, forcément, en me disant « Ah oui, t'es superficielle, ah oui, t'as pas de cerveau. » Enfin, tu vois, ce genre de truc, ça peut être un peu moins sympathique, par exemple.
Avec sa frange et ses longs cheveux blonds, Constance a des airs de Brigitte Bardot. Sur son profil, des photos d'elle qui prend la pose dans la capitale.
Les photos que je fais, c'est moi, mais bien sûr c'est de la mise en scène. Une photo, c'est une pose à un moment T, avec une bonne lumière, avec ça rassemble tellement de choses que bien sûr que c'est de la mise en scène.
Réfléchir au bon cadrage, à la bonne tenue, pour se montrer sous son meilleur jour, ce n'est pas du tout l'objectif de Louise. Depuis 3 ans, la jeune femme pose des photos d'elle dans sa vie de tous les jours.
Moi j'ai lancé le hashtag On veut du vrai, et le mouvement On veut du vrai, il y a de ça quasiment un an. Donc je suis plutôt partisane d'un Instagram qui n'est pas mis en scène. C'est un contenu qui va pas forcément être surtravaillé, qui va pas forcément montrer que certains angles qui mettent particulièrement en valeur, c'est ne pas avoir honte de corps qui sont normaux. Et c'est ça aussi On veut du vrai, quoi. C'est de dire bah oui voilà, moi j'ai des taches sur la peau et je devrais pas avoir l'impression que du coup j'ai pas ma place sur les réseaux sociaux, parce que je pense que c'est ce dont on a besoin de voir et c'est ce qui fait vraiment du bien aux gens. Et pour moi les réseaux sociaux, on devrait les utiliser pour faire du bien aux gens, quoi.
Louise se revendique féministe. Elle a choisi d'utiliser son influence sur Instagram pour promouvoir l'acceptation de soi.
Mon compte a été beaucoup le reflet de ma propre évolution personnelle. C'est-à-dire que je me suis quand même rendu compte que j'étais quand même tombée dans un écueil qui était de subir les injonctions qu'on impose aux femmes, notamment sur leur apparence, sur leur poids, etc. Et tout mon parcours après de déconstruction de ces diktats, je l'ai partagé sur les réseaux parce que je me suis rendu compte que ça aidait beaucoup de femmes. Et voilà, en parallèle, ma communauté s'est développée, donc j'ai compris que ça pouvait devenir mon activité principale, et j'aime tellement ça que c'est ce que j'ai fait.
Influenceuse, c'est un travail à temps plein. Alors, pour gérer leur image, ces stars des réseaux sociaux ont choisi de prendre un agent.
T'imagines, ton travail, c'est toi, c'est ton image. Quand tu te vends toi-même, quand tu vends ton service, tu fais comment ? C'est hyper compliqué. Donc là, d'avoir un filtre, d'avoir un intermédiaire qui est ton agent, ça va devenir beaucoup plus facile. Et en plus, c'est quelqu'un qui a les compétences de négociation.
L'agent de Constance est là pour l'aider à gérer ses partenariats avec des marques. Parce que pour gagner sa vie, une influenceuse peut s'engager à promouvoir des produits sur son profil. Alors forcément, le but est de se faire connaître par des marques et décrocher le meilleur contrat.
C'est un milieu aussi qui est assez compétitif. Puis ça peut être aussi un peu stressant de dire bah, tout ça, tu sais que c'est éphémère, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Puis après, tu prends un peu de distance et puis ça va mieux.
Pour Constance et Louise, tout a commencé avec quelques photos postées sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, elles sont devenues de véritables entrepreneuses, avec une vraie identité en ligne. Dans quelques mois, Louise va lancer sa propre marque de sous-vêtements confortables et éco-responsables.
Voilà ma tenue, j'ai mon petit sac que je mets tout le temps, je l'aime beaucoup trop. J'ai mis un manteau, j'ai mis un petit haut, un petit pantalon de simili-cuir, je sais plus, je crois de Zara. Et j'ai mis mes balancées comme d'habitude.
Réalisé 100% pendant le confinement via un Skype, une application vidéo.
comment ça s'est passé ?
C'était assez particulier de parler à une personne derrière un écran. Des fois, c'était un petit peu gênant par rapport aux conditions, au micro, etc. La batterie du téléphone, c'était un peu compliqué.
Mais c'était surtout intéressant et moi, ça m'a beaucoup plu. Et dans votre entourage, à la base, vous aviez un garçon, Mathis, avec qui on a aussi eu l'occasion de parler. Lui, il est influenceur, il vient d'ici, il vient de Clichy et c'est une image différente qu'il veut mettre en avant sur son Instagram.
Comme il habite dans une cité pas loin, bah, lui, il cherche pas forcément à renvoyer cette image de garçon de la cité, toujours en jogging, etc. etc.
Il voulait vraiment casser ce préjugé qu'on avait d'une personne de cité, toujours en jogging, etc. Vous parlez de préjugés et de la notion de cette carte d'identité qu'il se sentait obligé de reconstruire, de montrer sur Instagram. Les préjugés, c'est un sujet que vous ressentez au quotidien. Là, il y a le mouvement Black Lives Matter qui a pris de l'ampleur. Comment est-ce que vous êtes entré dans la mobilisation ?
Personnellement, je pense que c'est bien aussi de militer parce qu'on est un peu la génération qui va faire changer les choses. Moi-même, je sais que quand j'étais petite, j'ai toujours voulu avoir les cheveux lisses, être blonde, avoir les yeux bleus, etc. Du coup, bah, c'est quelque chose qui me touche plus personnellement. Quand on est petite, bah, notre mère, elle nous lave. Et moi, j'ai demandé à ma mère pourquoi j'ai pas les cheveux lisses, pourquoi j'ai pas les cheveux blonds. Et ma mère, elle m'a expliqué qu'en fait, bah, moi, je suis brune parce que dans ma famille, il y a personne qui est blond, etc. Et que je dois accepter d'avoir des cheveux comme ça, d'avoir une couleur de peau comme ça. Et que c'est pas forcément un défaut, au contraire, c'est une qualité.
Moi, je trouve ça grave, en fait. Qu'est-ce que tu trouves grave exactement ? Moi, surtout en maternelle, j'ai eu beaucoup de remarques parce que dans l'école que j'étais, il n'y en était pas beaucoup de personnes noires. Et on était souvent pointés du doigt, un peu mis à l'écart. Voilà.
Merci Rachel Saadoudine. Faute d'avoir pu se rendre au sein de la maison des adolescents de Garennes-la-Colombe, près de Paris. Alors, Noémie, Farah, Clarisse, Leïla et Ila ont reçu dans un recoin du CDI du lycée René Auffray deux praticiens, Patrick Alessian, pédopsychiatre, et l'infirmière Sabine Legros. Ils ont derrière eux des années d'écoute et de conseils pour cerner des chocs traumatiques, petits et grands, tenter de les dépasser, mais jamais évidemment ce médecin et cette infirmière n'avaient connu une telle période. Période fascinante, déroutante, inquiétante, parfois confinement, déconfinement, pas de lycée pendant des mois et des mois, avec des mots MOTS et des mots MAUX, le jour, la nuit, les écrans, les accros aussi, avec les parents, les beaux-parents ou les frères et sœurs. Parole d'ado en question et en analyse.
Sabine Legros, donc je suis infirmière sur la maison des adolescents de la Garenne-Colombe dans le 92.
Patrick Alessian, je suis psychiatre, pédopsychiatre et médecin coordinateur de la maison des adolescents des Hauts-de-Seine.
Comment on fait pour reconnaître quelqu'un qui a des symptômes genre de dépression ou qui a des phobies en particulier ?
Chez les adolescents, malgré tout, on retrouve comme chez tout le monde la tristesse, des crises de larmes. Et puis, il y a un autre signe qui est beaucoup plus fréquent chez les adolescents, c'est l'irritabilité, les colères, le repli sur soi. Une façon de se comporter qui devient inhabituelle alors que c'est une phase de développement où vous devez aller à la découverte du monde, de vos proches, de votre territoire. Et bah, certains commencent à se replier, à s'isoler. On s'inquiète, entre autres, pour vérifier s'il y a une dépression ou pas.
Ce qu'il faut bien voir, c'est que la période qu'on a traversée est complètement exceptionnelle et qu'on a demandé à tout le monde de se replier, en fait.
Et ce qu'on observe, nous, Maison des adolescents des Hauts-de-Seine, c'est que l'adaptation des adolescents, elle a été remarquable parce que cet enfermement, c'est quelque chose qui est contre nature à votre âge. Alors que vous devez partir, visiter, découvrir, penser à des vacances, aux copains, aux copines, à vos clubs de sport, à vos activités culturelles, on vous a dit vous ne sortez pas, vous ne bougez pas. L'inquiétude qu'on a eue pour certains, d'après des appels de parents, c'était que ça se déplace sur la nuit. Cette occupation, beaucoup de parents étaient inquiets de voir des enfants s'endormir plus tard, de rester sur leurs réseaux sociaux plus tard et d'avoir des décalages d'heures.
En fait, c'était vraiment très compliqué parce que on s'endormait, enfin moi personnellement, 4 heures, 5 heures comme ça, parce qu'on n'avait rien à perdre, parce qu'il n'y a pas de truc à faire le lendemain non plus. Et du coup, bon, on se réveillait, enfin moi personnellement, je me réveillais vers 15 heures, 14 heures, s'il n'y avait pas des cours.
Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que la qualité de ce que vit le corps et le mental la nuit, c'est extrêmement précieuse. Alors bon, vous avez une énergie, vous, jeune, comme ça, qui vous fait penser que, voilà, vous pouvez y aller. Mais en fait, non, il faut que vous sachiez vraiment que la nuit et le corps travaillent dans un repos apparent, mais ils travaillent beaucoup pour restaurer beaucoup de choses. Et le mental fait aussi son travail avec des cycles de sommeil, entre autres où il y a des rêves, il y a des processus aussi neurologiques qui sont là la nuit. Ça demande vraiment un endormissement qui ne soit pas au-delà de 23 heures à l'âge que vous avez. Et je le dis, voilà, et un réveil qui est plus facile, plus énergique. Je comprends que le mental aussi ait envie de découvrir la nuit, comme le disait Sabine, hein, et de voir ce que sont des relations aussi entre amis la nuit, enfin de communiquer.
Pourquoi vous avez parlé des rêves? Est-ce que genre, les rêves, ça peut faire quelque chose sur le mental ou pas? C'est une question... Non, mais en fait, c'est par exemple...
Oui, c'est très lié à l'histoire de chacun, au caractère de chacun, à la vie familiale de chacun. Et je vais vous dire, même, on pense même que nos ancêtres ont une place aussi dans nos rêves, même ceux qui sont disparus. Ben oui, il n'y a pas que les Africains qui pensent que des devoirs envers les anciens doivent être accomplis régulièrement. Et ça participe non seulement à des rêves, mais parfois même à des troubles psychiatriques, comme des hallucinations. Et voilà. Oui, ce sont les ethno-psychiatres, hein, qui nous ont bien montré ça. Je veux bien croire qu'une rupture sociale aussi importante que celle qu'on vit en entrant dans le confinement et en sortant puisse provoquer des processus hallucinatoires sans que les gens soient des malades psychiatriques ou malades psychotiques. À la différence des années 50, on est passé à côté de quelque chose d'important. C'est que la relation aux anciens, aux personnes de vos familles qui sont des grands-parents ou des personnes âgées, elle a subi un grand choc dans cette histoire-là d'aujourd'hui. Par le fait qu'ils ont été isolés, non pas par le confinement et l'épidémie, mais avant tout ça. Et qu'au moment d'une épreuve collective, eh ben, on n'était pas avec eux, ils n'étaient pas avec nous. Donc on sait que les adolescents ont accordé beaucoup d'importance à cette possibilité, dans le déconfinement, de retrouver des grands-parents qui sont chez eux ailleurs, vraiment des éclats de joie, ou avec beaucoup de circonspection, d'inquiétude, de retrouver des grands-parents qui sont dans les établissements spécialisés.
Les mots de Sopico à présent en musique, un choix des élèves du lycée René Auffray de Clichy-la-Garenne.
Y'a de la place, même y'en a pas, je vais rentrer. Pas dans la case, bientôt je vais casser l'antenne. Si tu me connais, c'est qu'on s'est revu dans le checks. J'ai pas le souvenir que tu sois venu danser. J'ai jamais eu les pieds sur terre. Ma jeunesse était super, même si parfois j'étais déçu d'elle. On a rien à part la tête et le cœur. J'suis dans le labo en train de maqueter le skeu. Dans ta concurrent qui va péter le seum. J'suis bloqué dans mes gâchites, j'essaie d'écrire un morceau de mes racines. Faut pas me déranger, j't'ai déjà dit. Ton énergie de fils de pute est négative. J'ai prononcé un mot qu'il fallait pas et t'es parti. Des histoires qu'on efface comme des emojis. C'est ton ego qui parle ou tu fais des caprices. Dis-moi comment tu voudrais que je sois touché. Tu voudrais que je sois jugé, que je sois coupable. Je reste attentif si jamais quoi ou quel. Tellement d'histoires, tu comptes plus les coupables. Y'a de la place, même y'en a pas, je vais rentrer. Pas dans la case, bientôt je vais casser l'antenne. Si tu me connais, c'est qu'on s'est revu dans le checks. J'ai pas le souvenir que tu sois venu danser. Y'a de la place, même y'en a pas, je vais rentrer. Pas dans la case, bientôt je vais casser l'antenne. Si tu me connais, c'est qu'on s'est revu dans le checks. J'ai pas le souvenir que tu sois venu danser. Je vais pas révéler nos chiffres, maintenant je peux plus compter les notifs. Je te laisse écouter la mélodie. C'est jamais trop lu les gros titres. Ego, je travaille et mes croquis. Le faire pour de vrai et le leitmotiv. T'es dans la ville et t'enchaînes. Tu peux pas miser sans perdre. Sinon pourquoi tu t'enterres? Tu veux pas rentrer chez toi. T'aimerais prendre les voiles. T'as pas le droit, tu t'empêches. Y'a de la place, même y'en a pas, je vais rentrer. Pas dans la case, bientôt je vais casser l'antenne. Si tu me connais, c'est qu'on s'est revu dans le checks. J'ai pas le souvenir que tu sois venu danser. Y'a de la place, même y'en a pas, je vais rentrer. Pas dans la case, bientôt je vais casser l'antenne. Si tu me connais, c'est qu'on s'est revu dans le checks. J'ai pas le souvenir que tu sois venu danser. T'es dans la ville et t'enchaînes. Tu peux pas miser sans perdre. Sinon pourquoi tu t'enterres? Tu peux pas rentrer chez toi. T'aimerais prendre les voiles. T'as pas le droit, tu t'empêches. Y'a de la place, même y'en a pas, je vais rentrer. Pas dans la case, bientôt je vais casser l'antenne. Si tu me connais, c'est qu'on s'est revu dans le checks. J'ai
pas le souvenir que tu sois venu danser.
T'es dans la ville et t'enchaînes. Tu peux pas miser sans perdre. Sinon pourquoi tu t'enterres? Tu veux pas rentrer chez toi. T'aimerais prendre les voiles.
Toujours au lycée René Auffray à Clichy, avec Salimata, Nelly, Yasmine, Kimi, Amel, Selma et Célia. Quel sujet avez-vous choisi, Salimata?
Alors, aujourd'hui, on va vous parler des violences conjugales.
Vous avez décidé de rencontrer trois personnes?
Oui, Louise, Christine Leduc et Rada Atem.
Je propose de commencer par Louise.
Louise Jacques-Thierry est une jeune femme de 28 ans. Elle travaille actuellement au CHU de Rennes en tant que gynécologue, obstétricienne et médecin légiste. Dans l'exercice de son métier, Louise est confrontée à de nombreux cas de violences conjugales, qu'elles prennent la forme de violences physiques, psychologiques ou encore sexuelles.
Comment faites-vous pour constater les violences conjugales et notamment celles qui sont d'ordre psychologique ?
Il faut être en alerte devant toutes les petites choses qui peuvent mettre la puce à l'oreille. Par exemple, des plaintes inexpliquées, répétées. Quand une patiente vient et qu'on constate des bleus, des griffures, des dents cassées, il faut vraiment poser la question. Si l'accompagnant est trop présent et qu'il répond à la place de la patiente, qu'il minimise, qu'il n'accepte pas de sortir de la salle, il faut être à la guise de tous ces petits signes pour pouvoir être en alerte, rebondir, ne pas hésiter à poser la question pour pouvoir dépister au mieux les violences physiques, mais aussi psychologiques.
Bonjour, je m'appelle Kimi. Est-ce que vous vous souvenez d'un cas qui vous a particulièrement marqué et vous pouvez nous en parler ?
Donc, c'était aux urgences gynécologiques. Une jeune femme qui consultait pour une douleur au ventre inexpliquée, assez vague. Je lui avais prescrit des médicaments contre la douleur et du repos. Au moment où je lui dis ça, elle me dit « Est-ce que c'est noté sur l'ordonnance qu'il faut se reposer ?» Petit à petit, en tâtonnant, j'ai appris qu'en fait, elle était victime de violences psychologiques, que son mari l'obligeait à se lever à des heures inhumaines pour travailler sans salaire dans le restaurant, pour s'occuper de la maison, qu'elle était sous pression, avec des menaces, etc. C'est petit à petit dans la conversation que j'ai compris ça. Et c'est un cas qui m'a marquée parce que c'est parti de presque rien. Et je me suis dit à ce moment-là qu'il y avait sûrement beaucoup de femmes qui consultaient aux urgences gynécologiques. En espérant y trouver de l'aide, on peut facilement passer à côté. Ça reste une parole qui est difficile à libérer.
On a également interrogé Christine Leduc, formatrice académique spécialisée dans la santé sexuelle et psychosociale. Elle décide de venir en aide à de nombreuses femmes dans le besoin.
J'interviens dans des interventions de vie relationnelle et sexuelle, sur lesquelles j'insiste beaucoup sur le respect des volontés de l'autre. Aussi bien chez les garçons que chez les filles, ne pas accepter n'importe quoi, le respect du oui, le respect du non.
Les jeunes femmes du lycée peuvent-elles vivre elles-mêmes ce genre de situation ?
Alors oui, il y a certains jeunes qui très tôt, dans leurs relations amoureuses, rentrent dans des violences qu'on peut qualifier de conjugales, puisqu'elles ont des relations amoureuses dans la violence. Là déjà, on arrive à rencontrer des jeunes qui sont soumises à des relations violentes. Et dans ces cas-là, ça commence à être très vite difficile. Et très vite difficile de les convaincre que c'est une relation anormale. Alors bien sûr, si c'est des jeunes mineurs, on leur demande pas leur avis puisqu'on est dans le cadre de la protection de l'enfance. Si c'est des jeunes majeurs, faut arriver à les convaincre que leur relation est anormale. Et il faut les orienter sur des structures adaptées. On a nos réseaux de partenaires vers qui on essaye de les envoyer discuter de ces relations qui vont vers de la violence conjugale. Oui.
Il existe des structures pour aider des femmes qui en auraient besoin.
Oui, comme la Maison des Femmes qui a ouvert ses portes en 2016. Elle est située au centre de Saint-Denis et a pour but d'aider les femmes, peu importe leur localisation. Quand on arrive à la Maison des Femmes, on voit un bâtiment central en forme de maison. Il y a des poutres en bois et des baies vitrées. Et puis, il y a des ateliers collés les uns aux autres. Tout ceci crée une ambiance agréable et permet de mettre en confiance ces femmes en situation difficile. À l'intérieur, nous avons Rada Atem, gynécologue et fondatrice de la Maison des Femmes.
Aujourd'hui, c'est devenu un sujet un peu quotidien. Donc, il y a des gens qui même trouvent qu'on passe notre temps à parler de ça et que ça va. Ce qui est bien, c'est que plus personne ne peut dire « Oh ben, ça ne nous regarde pas, ça se passe dans les familles, c'est leur secret, de quoi je me mêle. » Plus personne ne peut dire qu'un enfant frappé par ses parents ou violé par son grand frère, ça ne nous regarde pas non plus. Et puis les violences sexuelles, grâce à MeToo, grâce à tous ces mouvements-là, on peut plus non plus dire que c'est, on en rajoute, que c'est pas si fréquent que ça, puisqu'on a vu qu'aussi bien dans les milieux religieux que dans les milieux sportifs, que au cinéma, que partout. Donc, on commence à prendre conscience du fait que, en fait, c'est extrêmement fréquent, c'est extrêmement banal, et surtout, c'est extrêmement caché. Et donc, il est temps de sortir de ce côté caché et que la honte change de camp. Parce qu'en fait, pourquoi c'est caché? Parce qu'on profite de ce que les victimes ont honte, parce qu'on leur donne cette idée que c'est un peu leur faute et que tout le monde va se moquer d'elles et que c'est terrible. Alors qu'en fait, celui qui doit avoir honte, c'est celui qui commet toutes ces agressions et toutes ces violences. Et ça serait bien qu'on renverse les choses de cette manière-là. Pour qu'il y en ait moins, il faut un changement culturel très profond qui commence chez les tout petits garçons et les toutes petites filles. Donc ça sera pour les générations à venir.
Le confinement a-t-il aggravé les choses ?
Bien sûr, il y a des situations beaucoup plus difficiles parce que quand on est enfermé avec son agresseur toute la journée, qu'on n'a pas la possibilité ni d'aller travailler, ni d'aller voir ses copines, ni d'aller consulter, ben c'est pire. Lui, de son côté, il a rien pour le distraire. Il n'y a pas les copains, il n'y a pas le bistrot. Donc, ça exacerbe les violences et le nombre de violences augmente.
Je m'appelle Anna.
Je m'appelle Inès.
Je m'appelle Gisèle.
Je suis épuisée.
Je dois tout gérer.
Hier soir, j'avais pas
le travail, le bébé, les courses, le ménage,
même mon mari. J'étais fatiguée.
Je voulais pas coucher avec lui.
Je voulais pas coucher avec lui, mais il m'écoutait pas.
Il a dit qu'il ferait ça vite fait.
J'ai honte.
Tu vas encore me demander de venir dans son bureau.
Me reluquer, me frôler.
Dans le métro, un homme se voit contre ma cuisse.
Dans la rue, un groupe de garçons m'a traité de salope.
Ils disent que je suis grosse.
Je fais quoi maintenant?
On m'a dit de parler, de sortir du silence, mais ma parole est constamment remise en question.
Et on me dit que c'est dans ma tête, que je suis douillette.
J'ai peur.
Tout le monde se moque.
Mais aujourd'hui, j'ai encore mal.
Même quand je proteste,
il s'impose.
Mais après, il y a eu les coups.
J'essaie de l'ignorer, mais il recommence. Je fais quoi maintenant?
Est-ce que ça a été facile de trouver des invités, des gens à interroger pour préparer cette émission?
Non, c'était pas très facile. Il faut chercher.
C'est compliqué, mais avec du travail, ça donne un beau résultat.
Vous n'aviez jamais, j'imagine, auparavant, sélectionné des passages dans une interview, fait du montage pour choisir les passages les plus intéressants?
Non.
Vous auriez imaginé ce travail qu'il y avait derrière toutes les interviews que vous entendez à la radio ou à la télé?
Non, parce que l'interview, elle dure environ 20 minutes et au final, à la fin, on garde que 2 minutes. Du coup, c'est un grand travail d'enlever les parties les moins importantes, même si toute l'interview en soi, elle est importante. A bottle of lean, a gun in your jeans and a little faith in me. A plane in the sky, the only starlight on this never-ending street. The cameras in cops, we could have been stars on our mother's new screens. On our mother's new screens. All of these traps and all of these street signs, none of them will be yours or mine, but I'll be your empire. These colors and flags, the sweat on your back, you're doing what you can. Pride in your hand, a price on your head, you can never let them win. Just put down that bottle, tell me your sorrows, I care about you, fam. I care about you, fam, oh, oh. All of these traps, and all of these street signs, none of them will be yours or mine, but I'll be your empire. Just stay alive, stay alive, stay alive. And if they take it all, freedom in our hearts and that glow in your face, I'll remind you who you were before it changed. All of these tribes and all of these street signs, none of them will be yours or mine.
Stay Alive, interprété par Mustapha. Interclasse se poursuit avec la venue dans ce lycée hôtelier René Auffray de Clichy-la-Garenne, au nord de Paris, d'une personne exceptionnelle. La visite de Ginette Kolinka, 95 ans, rescapée du camp de la mort d'Auschwitz-Birkenau, aujourd'hui passeuse de mémoire. Ginette Kolinka avait 19 ans lorsqu'en mars 1944, elle est arrêtée par la Gestapo à Avignon avec son père, son petit frère et son neveu et déportée. Elle sera seule à revenir de cet enfer. Depuis, elle raconte l'indicible, inlassablement dans toutes les classes de France, son credo, témoigner pour ne pas oublier. Ginette Kolinka a accepté sans hésitation l'invitation des élèves du lycée René Auffray, prêts à poser leurs nombreuses questions.
Bonjour Ginette Kolinka, vous avez été déportée en mars 1944. Avant ça, dans quelle France viviez-vous ?
Je suis née à Paris, dans le 4e arrondissement, quartier où il y avait beaucoup de juifs qui étaient installés. Je suis la 6e d'une famille de 6 filles. Mon père voulait absolument un garçon. Il a eu 6 filles, mais le garçon, 7 ans après moi, est arrivé. Il s'appelait Gilbert. Au début de la guerre, en 1939, mon père croit que Paris va être bombardé. Du coup, mon père nous expédie en province, dans le Cantal. Et en décembre 1942, on est remonté sur Paris. Et Hitler va commencer les lois anti-juives. Alors, Hitler veut arrêter tous les juifs. Il veut les tuer. Oui, mais pour les tuer, il faut les reconnaître. Comment est-ce que vous trouvez que j'ai quelque chose de spécial ? Moi, je trouve pas. Moi, j'ai un nez comme toi, moi, je vois pas. Mais pour Hitler, si. Lui, on était spécial. On était juif. Et Hitler veut tuer tous les juifs. Donc, il ordonne que tous les juifs se fassent recenser. Et là, on a sur nos cartes d'identité un gros tampon marqué « juif ». Seulement, une carte d'identité, on ne la porte pas au bout du bras. Donc, il veut nous humilier en même temps. Donc, il va nous obliger à porter une étoile.
Quand Hitler il est arrivé au pouvoir en Allemagne, est-ce que vous aviez peur avant la déportation ?
Moi, mais pas du tout. Mon père est français. Il pense que nous, il ne nous arrivera rien. À condition de respecter les lois anti-juives. Donc lui, il n'a plus le droit de travailler. Moi, je n'ai plus le droit de sortir après 20 heures. Je n'ai pas le droit de faire de sport. Je n'ai pas le droit d'aller au cinéma. Et surtout, les juifs n'ont plus le droit d'être en contact avec les non-juifs. Donc, plein de métiers sont interdits.
Bonjour Ginette, je m'appelle Elliot, j'ai 16 ans. Est-ce que vous avez porté l'étoile jaune ?
Oui, j'ai porté l'étoile juive tout le temps que j'étais en zone occupée. Parce que vous vous rappelez que la France a été coupée en deux. Il y avait zone occupée au nord de la Loire et zone libre au sud. Nous, quand on a été arrêtés, on était en zone libre. On a quitté Paris parce que un soir, un monsieur vient nous trouver. Il travaille à la préfecture de police et il a eu sur son bureau un dossier qui nous concernait. On a été dénoncés. Ce monsieur nous prévient. Moi, je vous conseille de quitter Paris. Et on va quitter Paris. D'accord. On était plus tranquille en zone libre. On ne portait pas l'étoile, mais par contre, il fallait se faire recenser dans les préfectures et tout. On ne l'a pas fait. On a gardé quand même notre nom de famille. Mon nom de famille, Cherkassky, il est d'origine russe. Eh bien, d'origine russe, on va être de religion orthodoxe. Et pour tout le monde, on racontait qu'on était orthodoxe. On a cru que tout le monde nous croyait, parce qu'on a été accepté. Et puis, en fin de compte, il y en a un qui s'est rendu compte qu'on mentait et il nous a dénoncés. La Gestapo est là. La Gestapo, ils avaient manteau de cuir et chapeau. C'était leur uniforme. Tout le monde les craignait. Mon père est devant eux avec mon frère et mon neveu. je dis, on n'est pas juif, on est orthodoxe. Il les a emmenés les garçons dans la cuisine, ils les ont fait déculoter, ils étaient circoncis. Immédiatement, on est embarqué.
Bonjour Ginette, je m'appelle Ryan et j'ai 16 ans. Et comme vous venez de le dire, vous avez été arrêté avec votre papa, votre neveu et votre petit frère. Mais que s'est-il passé ensuite ?
Alors, on est arrêté le 13 mars et fin mars, on va partir pour Paris. On n'avait pas peur parce qu'il était dit qu'on allait dans un camp de travail. J'ai 19 ans, moi j'ai pas peur. Alors c'est quand on a quitté Drancy, on va à Bobigny, tout est calme, on est obéissant, on va dans les autobus, on descend des autobus, alors là ça change. Là ce sont des hurlements, des commandements, on nous pousse et on commence déjà à être poussé tellement fort qu'il y en a qui perdent l'équilibre, qui tombent. Et puis maintenant on est sur le quai de la gare, il y a un train avec des wagons ouverts. Qu'est-ce que vous pensez, vous, si vous voyez un train avec des wagons ouverts, il n'y a rien dans ces wagons, ils sont vides. Qu'est-ce que vous pensez ?
J'aurais peur.
T'auras peur ?
Oui.
Pourquoi que t'aurais peur ? Il faut oublier le livre, il faut oublier tout ce que t'as dit. Tu vois un train, t'imagines, c'était moi, et je vois un train vide devant moi avec des wagons ouverts. Ben ça, c'est un train de marchandises, il va partir.
Dans quel type de train avez-vous voyagé ? Quelles étaient les conditions ?
Ces wagons-là, en fin de compte, c'est pour nous. On nous pousse brutalement. Et le premier mot que j'apprends en allemand, schnell. Vite, il faut monter. Alors, il y a des personnes âgées avec nous, il y a des personnes qui sont... Alors, on nous pousse, il y en a qui tombent. Et nous, on est jeunes. Maintenant, je me dis, j'ai dû sauter pour monter dans le wagon. À l'époque, les personnes âgées, comment qu'elles ont fait ? En tous les cas, maintenant, on est dans le wagon, on est tous debout, on est beaucoup, les portes vont être verrouillées, fermées complètement. Donc, on est dans le noir.
Combien de temps il a duré le voyage ?
3 jours, 3 nuits, on entendait tout, on sentait tout, mais on ne voyait pas.
Je m'appelle Adam. Comment s'est passée l'arrivée au camp de concentration ?
Alors, on arrive au bout de 3 jours et 3 nuits. On arrive à l'aube. Les portes sont déverrouillées. Un air froid qui pénètre. Mais on a été enfermés 3 jours, 3 nuits. On n'a pas d'air. Ça sentait mauvais. Donc, ça a été agréable. Mais agréable, un quart de seconde. Aussitôt, il y a des hommes qui ont sauté dans le wagon, qui nous ont poussés. Schnell, il faut descendre. Le train s'arrête loin du camp. Il faudra marcher sur le quai. Des ordres sont hurlés. Allemand, je ne parle pas. Je demande à côté de moi, qu'est-ce qu'ils disent ? Et il y en a qui me traduisent. Les personnes qui sont malades, les personnes qui sont fatiguées, les personnes qui ne veulent pas marcher, eh bien, on a mis à votre disposition des camions. « Oh ben, papa Gilbert, prenez le camion, parce que mon petit frère s'était trouvé mal. Papa et Gilbert m'écoutent et vont monter sur le camion. Je leur ai même pas fait un petit bisou. On va se retrouver. » Bon, eh ben oui, on s'est jamais retrouvés. Donc, ils sont montés sur les camions et je les ai envoyés à la mort. J'avais appris ça après, que tous ceux qui étaient sur les camions, ça voulait dire qu'ils ne rentraient pas dans le camp. Mais ça, je ne le savais pas. Et ça, c'était un grand remords. Alors, on rentre dans le camp, on doit se mettre 5 par 5, et là, c'est ce qui s'appelle la sélection. J'ai appris après, en rentrant, on était 800 femmes, mes enfants, et 700 hommes. Eh bien, quand on est rentré dans le camp, je l'ai appris après, hein, on n'était plus que 91 femmes. En fin de compte, ils ne laissaient vivre que les personnes capables de travailler. Et pour eux, travailler, c'était 15 ans, 45 ans. Si tu as moins de 15 ans, tu es trop jeune, tu ne peux pas travailler. Si tu as plus de 45 ans, tu es trop vieille, tu ne peux pas travailler. Et maintenant, je suis dans le camp, c'est là qu'on va me dire, déshabillez-vous. Alors on enlève ce qu'on a, mais on reste en combinaison. Ah non, mais la combinaison, c'est trop. Bon, eh ben, je reste en culotte et en soutien-gorge. Encore de trop. Alors que moi, je cache mes seins, que je cache. Elle me prend mon bras et elle me met. Alors, est-ce que ça, j'avais pas prévu de montrer un numéro. Si, peut-être qu'on va voir. Voyez, voilà. Alors, mon numéro, c'est 78 599. Alors, maintenant, on est tatoué, on est nu. Vous croyez qu'on est débarrassé? Non. On va nous enlever les cheveux. On va nous enlever les poils du sexe. Il faut quand même qu'on nous habille. Les vêtements rayés sont réservés aux personnes déportées politiques. Les juifs, mais les juifs, c'est de la, c'est rien, les juifs. C'est de la vermine. La vermine, on l'écrase. La vermine, on la tue. Mais on va pas faire des uniformes pour la vermine. Non. Quand on est dans les camps, on perd après toute notion d'humanité. On n'est plus des gens normaux et on n'est plus rien maintenant. Comment des êtres humains, à cette époque encore, c'est pas quand même des siècles, ont pu, par méchanceté, par haine, avoir l'idée de faire ça?
Est-ce que vous saviez que les gens étaient gazés et brûlés?
On l'a appris après. Après, mais tout de suite, en fin de compte. Parce que quand on est arrivé, moi, j'ai dit à mon père, à mon frère de monter sous camion. Il y en a qui avaient des bébés, on leur avait dit, donnez-les aux personnes âgées qui vous accompagnent. Leurs bébés, elles l'ont donné à leur mère, à leur grand-mère. Et quand elles voulaient pas le donner, carrément, ils prenaient le bébé et ils le donnaient à la personne qui montait sur le camion. Vous inquiétez pas, vous allez les retrouver. Donc, elles s'inquiétaient pas. Et puis, quand on arrive dans le camp, après tout ce qu'on a eu, alors, quand est-ce qu'on va voir nos familles qui sont montées sur les camions? Et les personnes qu'on interroge, ce sont des déportés qui sont là depuis un an, deux ans. Ben, vous voyez, regardez, la cheminée. Ben oui, mais je l'ai vue en arrivant. C'est mon usine. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Mais non, c'est pas votre usine. Ce sont tous ceux qui étaient montés sur les camions, qui ont été assassinés. Alors, on apprend que c'est gazé, que ces gaz, c'est le zyklon B, tout ça, on l'apprend après. Mais en attendant, ce qu'on apprend, c'est que la fumée, l'odeur, c'est pas l'usine. C'est les corps de tous ceux qui étaient sur les camions, qui ont été assassinés, et une fois morts, eh ben, on brûle leur corps.
Comment avez-vous su que la guerre était finie?
Quand on est arrivé dans le camp de Theresienstadt, on est accueilli par des gens qui nous frappent pas, qui nous parlent gentiment. Et là, on apprend que ce camp, Theresienstadt, a été libéré. Donc, les personnes qui nous accueillent, ce sont pas les nazis. Moi, je n'ai rien ressenti parce que j'étais très malade et j'avais attrapé le typhus. Et quand j'ai été rapatriée, eh ben, j'ai pas non plus explosé de joie parce que moi je revenais et que j'apprends que personne n'est rentré. Que moi.
Est-ce que ça a été dur de reprendre une vie normale?
Non, pas pour moi. Pas pour moi parce que j'ai eu la chance de retrouver mes sœurs et ma mère.
Est-ce que le révisionnisme, c'est dangereux?
Ceux qui révisent
l'histoire. Moi j'aimerais bien en avoir un en face de moi. Pourquoi tu dis ça et comment tu sais que c'est faux? Je lui poserai la question.
Avez-vous peur que ça recommence?
L'antisémitisme, le racisme, je crois qu'on n'arrivera jamais à l'effacer. Peut-être vous, votre génération, peut-être.
Un très très grand merci. Hein.
Non. Par contre, maintenant, à partir de maintenant, vous êtes devenus nos passeurs de mémoire. Et je vous en remercie à l'avance. Tout ce que vous lisez et tout ce que vous pouvez entendre, c'est pas la vérité. C'est pire. C'est pire. Il n'y a pas de mots qui peuvent désigner ce que les nazis ont fait endurer aux juifs. Vous savez, quelquefois, je vois des bébés dans une poussette et tout. Je m'extasie. Comment ces êtres-là ont-ils pu les gazer, les... La haine, la haine, la haine. Merci.
Vous avez passé un peu plus d'une heure et demie avec Ginette Colinka, rescapée de la Shoah, 95 ans. Nous sommes ici, dans ce lycée René Auffray de Clichy-la-Garenne, dans le nord de Paris. Vous êtes lycéen. Elliot ?
J'arrive pas à imaginer les circonstances dans lesquelles elle a vécu tout ça. C'est vraiment horrible. Quand elle nous a dit de supprimer le mot « haine » de notre vocabulaire, ça a été un moment fort pour moi. Parce que j'ai senti qu'elle était émue et ça m'a ému moi aussi.
Et moi, le moment qui m'a marqué, c'est quand elle a dit qu'elle avait emmené son père et son frère à la mort. Parce que ça m'a fait beaucoup de peine. Parce qu'on sentait qu'elle était vraiment touchée.
Je retiens que ce qui s'est passé, c'est grave et qu'il ne faut pas l'oublier. Heureusement qu'elle est venue en parler et qu'elle en parle. Parce que c'est nous qui devons transmettre le message, que ce ne soit pas oublié. En fait, ce n'est pas comme quand on l'apprend pendant les cours d'histoire ou quoi. C'est quelqu'un qui l'a vécu et qui l'explique en détail.
C'est quelque chose que j'aurais jamais l'occasion de revivre parce que ça doit être une des dernières survivantes, que bientôt plus personne sera là et que justement les beaux-parleurs vont venir, puis ça sera à nous de leur dire j'ai parlé à une personne qui l'a vécu et je peux vous assurer que c'était pas du tout comme ce que vous dites. Pour eux, ça va être facile de parler sur le dos des gens maintenant qu'ils n'existent plus et qu'ils sont plus là, mais moi je pense que c'est très important de retenir ce qu'ils disent et de pas écouter ceux qui disent n'importe quoi alors qu'ils l'ont pas vécu.
C'est un moment incroyable parce que on voit qu'une femme qui a vécu dans les camps de concentration, elle nous parle sans filtre, sans gêne, elle nous raconte tout ce qui s'est passé et on savait pas que c'était aussi poignant, aussi blessant que ça. Je savais pas que Hitler et les nazis étaient aussi méchants envers les juifs. De partir de la prison à des camps de concentration, c'est pas la même chose.
Tu arrives à te mettre à sa place?
Non. Parce que moi, je sais pas comment c'est vivable.
Interclasse à Clichy, production, rédaction en chef,
Éric Valmire, assisté de Fanny Léonore Crouzet,
réalisation, Lilian Allom,
programmation musicale, Jean-Baptiste Audibert,
prise de son, Hélène Langlois, Fred Kérou,
équipe France Inter, Omar Waman, Nicolas Mathias, Emmanuel Leclerc, Rachel Sadodine, Alexandra Akoun.
Équipe du lycée, Véronique Mélin, Julia Gallo, Charlotte Amidani, Sandra Dehaye, Henri Haye.